Le journal Hugo Lanoë, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. La SNCF promet une nette amélioration du trafic dans les gares demain. Nouvelle semaine de contestation contre la réforme des retraites. Le point complet sur les prévisions de trafic dans un instant. La guerre des mots entre Washington et Téhéran. Donald Trump menace de viser 52 sites iraniens, dont des lieux historiques. Réponse de la République islamique. Viser des lieux culturels est un crime de guerre. Correspondance à New York dans ce journal. La police a ouvert le feu ce midi à Metz sur un homme fiché S armé d'un couteau. L'individu a tenté de s'en prendre à des passants au cri de Allahu Akbar. Et puis un hommage à la fin de cette édition à Georges Dubœuf, surnommé le pape du Beaujolais. Et cette figure de la vigne est décédée hier à 86 ans.
France Inter.
5 décembre, 5 janvier, un mois de bras de fer autour des retraites. La semaine s'annonce décisive en perspective pour cette épineuse réforme, mais aussi pour la contestation qu'elle suscite. En attendant la reprise des négociations entre les syndicats et le gouvernement mardi, et les deux mobilisations prévues jeudi et samedi, l'heure est aux prévisions de trafic dans les gares. Pour demain, au 33e jour de grève, la SNCF promet une nette amélioration de la circulation. Agnès Augier, porte-parole du groupe ferroviaire.
Sur Transilia, on a un peu plus d'un train sur deux qui circule. Toutes les lignes demain seront circulées. On a une situation qui est néanmoins hétérogène. À Saint-Lazare, par exemple, sur les lignes J, L, on est à plus de deux trains sur trois. Alors que sur les lignes C et D, ça reste difficile. On est plutôt à 40% de trafic, voire seulement 30% sur la D Sud. Donc sur la D Sud particulièrement, nous continuons à recommander à ceux qui le peuvent de reporter leur voyage en dehors des heures de pointe ou de trouver un itinéraire alternatif. Pour TER, en Hauts-de-France, on est à 65% de circulation en train. Sur Grand Est, on est à 75% de circulation en train. On a des lignes qui étaient fermées depuis le 5 décembre qui seront demain réouvertes. C'est le cas par exemple de Amiens-Rouen, de Bayonne-Saint-Jean, et puis c'est le cas également de Calais-Dunkerque. Et puis il y a des régions où ça reste un peu plus compliqué, comme Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, puisque là on est seulement à une circulation sur deux.
Agnès Augier, porte-parole de la SNCF. Côté transport parisien, la RATP prévoit un trafic très perturbé dans les couloirs du métro et du RER. Un trafic proche de celui de vendredi. Toutes les lignes de métro circuleront aux heures de pointe. Trafic quasi normal sur le tramway. Et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne. Après les bombardements et les tirs de roquettes, les États-Unis et l'Iran se livrent désormais à une véritable guerre des mots. Depuis vendredi et l'assassinat du général Soleimani, chaque partie y va de sa petite phrase. L'armée iranienne dit douter, par exemple, du courage de Donald Trump et de sa capacité à exécuter ses menaces. Le président américain dit avoir identifié 52 sites iraniens, 52 cibles potentielles dans le collimateur de Washington, parmi lesquels des lieux historiques, 52 comme autant d'otages américains retenus puis libérés en 1980 à Téhéran. La Maison-Blanche promet une réponse très dure en cas de vengeance iranienne, de quoi provoquer de nombreuses réactions à New York. Pour France Inter, Loïc Loury.
Un crime de guerre qui fait de vous un monstre plutôt qu'un homme fort, les mots sont ceux d'Alexandria Ocasio-Cortez, jeune et influente élue progressiste et démocrate sur Twitter. Elle accuse le président américain, en visant des sites culturels, de menacer la vie de familles, femmes et enfants, l'une des nombreuses réactions outrées après les déclarations de Donald Trump. Ce matin, son secrétaire d'État, Mike Pompeo, a donc déminé le terrain en contredisant, sans vouloir l'admettre, le président. Les Américains le savent, nous ne tremblerons pas, nous serons braves, nous les protégerons, mais dans le respect de la loi, comme toujours. Et les tweets du président ne disent pas autre chose. Mais Donald Trump ne s'était pas arrêté là. Après avoir joué la désescalade, le président a remis une couche de menaces, toujours sur Twitter. Nous venons, dit-il, de dépenser 2000 milliards de dollars en équipement militaire. Si l'Iran attaque, nous enverrons dans leur direction une partie de ce beau matériel tout neuf. Et au jeu des déclarations, l'Iran n'est pas en reste. Notre réponse à l'assassinat du général Soleimani sera militaire, affirme aujourd'hui un conseiller du guide suprême. New York, Loïc Loury, France Inter.
De leur côté, les parlementaires irakiens demandent au gouvernement de Bagdad d'expulser du territoire tous les soldats étrangers membres de la coalition internationale anti-État islamique, une coalition pilotée, je vous le rappelle, par Washington. Pendant ce temps, eh bien, 3 jours de deuil national en Iran en hommage au général Qassem Soleimani. Et les autorités sont contraintes d'annuler une cérémonie prévue à Téhéran en raison de l'engouement et de la foule massée autour du cortège funèbre à Ahvaz et Mashhad, cortège transportant la dépouille de celui qui était présenté jusqu'alors comme l'architecte de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Retour en France, puisque la police a ouvert le feu ce midi à Metz, dans le quartier de Borny, où un homme d'une trentaine d'années a tenté d'agresser au couteau plusieurs passants au cri d'Allah Akbar. L'homme est connu des services de police et du renseignement. Il est fiché S, touché à la cuisse. Il est actuellement à l'hôpital. Outre l'assaillant, personne n'a été blessé. Les précisions sur le déroulé des faits avec Thomas Vichard.
Il était midi quand l'assaillant, âgé de 30 ans, est sorti d'une épicerie muni d'un couteau de cuisine. Il s'est alors dirigé vers des agents de la police nationale qui se trouvaient de l'autre côté de la rue, sur le boulevard de Guyenne. Selon une source policière, le jeune homme en djellaba aurait crié « Allah Akbar ». Se sentant menacé, les policiers ont tiré à 4 reprises en direction des jambes. Après sommation, fiché S, l'homme a été touché à la cuisse et a été immédiatement transporté à l'hôpital par les pompiers venus sur place. Cet homme était très connu dans son quartier, les riverains le décrivent comme dérangé psychologiquement. Ceux qui ont assisté à la scène sont très choqués par les événements. Ils dénoncent une surréaction des forces de l'ordre. 2 heures après l'incident, il y avait encore beaucoup d'agitation autour des lieux. La mairie de Metz a de son côté salué la réaction de la police nationale.
Une agression qui intervient 2 jours après l'attaque au couteau de Villejuif dans le Val-de-Marne, où un homme a tué 1 personne et blessé 2 autres avant d'être abattu par la police. En dépit de ses troubles psychiatriques, le parquet national antiterroriste s'est finalement saisi de l'enquête. Les signes de radicalisation étant évident et manifeste selon le parquet. 2 jours après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un contrôle routier à Paris, Cédric, père de famille d'une 40aine d'années, est mort cette nuit. L'avocat de la famille lance un appel à témoins pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé pendant le contrôle routier. Son client a peut-être fait l'objet, selon lui, d'un plaquage ventral de la part des policiers qui mène souvent à l'asphyxie. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Il était surnommé le pape du Beaujolais. Georges Dubœuf est décédé hier à l'âge de 86 ans. Il a succombé à une hémorragie cérébrale. Georges Dubœuf, figure du monde de la vigne, fameux négociant en vin, connu pour avoir organisé des mythiques fêtes du Beaujolais nouveau dans les années 80. Tout le showbiz s'y précipitait. Un homme proche des gens, raconte-t-on dans le Beaujolais, comme l'a constaté sur place Mathilde Imberti.
Dans la cave à vin de Dominique Piron, président de l'interprofessionnel du Beaujolais, dans ce dimanche midi, on trinque à Georges Dubœuf, le missionnaire, le pape, l'ambassadeur du vignoble.
Ah oui, tout le monde connaît Georges Dubœuf, bien évidemment. Il a acheté du vin dans beaucoup d'endroits et en première ligne tout le temps. Ce qui fait que c'est lui qui a marqué, qui a planté les drapeaux un peu partout dans le monde.
Il disparaît à 86 ans. Nicole Descombes en a 70. Sa famille commerce avec la maison Dubœuf depuis toujours. Elle se rappelle la belle époque.
Il y avait Colaro, il y avait Pivot, il y avait Eddie Barclay, il y avait... Je crois que tout le monde est passé au Beaujolais Nouveau. Donc à minuit pile, tous les camions partaient en klaxonnant et c'était la fête extraordinaire.
Un immense professionnel commente pour résumer ces vignerons du Beaujolais.
Une bête de travail. À 4h30, 5h, il pouvait être au bureau. Il ne buvait pas du tout, monsieur Dubœuf. Il recrachait absolument tous les vins qu'il dégustait. Il en dégustait des centaines par jour, avec une mémoire incroyable. Au bout de 150 vins, il se rappelait du premier qu'il avait dégusté.
Georges Dubœuf part tout en laissant une société prospère. Elle est la première pour la vente de Beaujolais Nouveau dans un contexte favorable aux vignobles. 100 millions de bouteilles se vendent chaque année et 2000 vignerons travaillent dans la région, tous un peu héritiers de Georges Dubœuf. À Morgon, dans le Beaujolais, Mathilde Imberti, France Inter.
À l'écoute de France Inter, et 18h09, des nouvelles du ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
C'est un lundi gris et brumeux qui nous attend, Jean-Michel Golinski.
Pas de changement dans l'ensemble ce lundi, avec le maintien de grisailles parfois bien accrochées et résistant une bonne partie de la journée sur bon nombre de régions de la moitié nord. On notera l'arrivée de pluies faibles en seconde partie de journée sur le quart nord-ouest et fait nouveau le retour d'entrées maritimes sur le Languedoc et le Roussillon, parfois denses et capables de lâcher quelques gouttes sur les premiers contreforts des Cévennes, avec des gelées vers 0 moins 2 degrés sur la plupart des régions en fin de nuit, excepté dans le quart sud-est. L'après-midi, les valeurs sont en grand changement par rapport à ce dimanche, vont afficher 5 à 10 en général et 13 à 15 près de la Méditerranée.